Donc nous allons accueillir Georges Geoffroy. Ça va peut-être être un petit peu plus léger, je ne sais pas, plus orienté sur les abeilles. Donc je vais laisser Monsieur Geoffroy se présenter et parcours, métier et puis l'association des ruchers.
Alors, l'argumentaire de Hugues était très alarmiste, mais je pense qu'il est bien réaliste. L'accumulation d'exemples qu'il a pu fournir, nous, on le vit, il y a plusieurs apiculteurs amateurs ici. De toute façon, quels que soient les secteurs de production agricole, on les a impactés. On verra. Oui,
Bon,
alors
alors
moi.
déjà présentez-vous,
Voilà,
on va
merci.
reprendre.
Georges Geoffroy, je suis apiculteur amateur. J'ai failli devenir passé professionnel deux fois dans ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Je suis apiculteur, je pense, depuis l'âge de 16-17 ans. Mon père en avait, je viens du Puy-en-Velay, à côté d'une commune. Et on avait à cette époque, et beaucoup ici certainement se souviennent de ce profil d'activité familiale. Mon père n'était pas agriculteur, mais on avait des animaux, etc., dont des abeilles. Et cette époque était assez faste par rapport à celle que l'on connaît maintenant. Il avait 4-5 ruches. Les colonies pouvaient mourir en hiver. Ils ne s'en préoccupaient absolument pas. Il faisait la récolte plutôt à Pâques, c'est ce qu'on faisait anciennement. Et ensuite, il laissait faire. Donc, à cette époque, il y avait une profusion d'essaims naturels. Et les ruches étaient regarnies tous les ans. Et bon an, mal an, ça fonctionnait, quoi, l'économie familiale. Et puis, voilà, je suis parti à Saint-Étienne faire des études. Je suis ensuite. J'ai glissé sur Lyon, enfin, j'ai travaillé longtemps à Vernaison. Mais les abeilles m'ont toujours suivi. Voilà.
Et
J'en
donc le
avais
rucher
besoin comme
école.
exercice mental et spirituel. Parce que pour moi, ça n'est pas qu'une pratique agricole, c'est une pratique éminemment culturelle. Voilà, donc j'ai toujours des abeilles. Nous avons monté il y a 3 ans, n'est-ce pas? Le rucher école, un rucher école à Givors, malheureusement, on l'a démarré en même temps que le Covid, enfin avec le confinement. Ça ne nous a pas aidé, mais actuellement on est une quarantaine. On prodigue des cours, et c'est là que ça rejoint tes préoccupations. On forme des apiculteurs. Voilà, amateurs, peut-être certains deviendront professionnels. Et notre plus jeune apicultrice est ici, elle a 13 ans, elle a une ruche, mais elle travaille avec son père. Voilà. On accueille aussi les enfants, on fait de la formation en milieu scolaire, voilà. On fait un travail pédagogique. Voilà.
Super, très bien. Pour la présentation, on est bien. Donc après, on avait une question assez généraliste. C'était depuis quand on pratique l'apiculture? Est-ce qu'on
Alors,
sait?
brièvement, l'apiculture, déjà, il faut en donner une définition. L'apiculture est une pratique agricole qui consiste à élever, soigner, accompagner Apis mellifica, l'abeille mellifère européenne. Depuis quand? Alors, il faut dire tout de suite en chapeau que l'abeille et l'homme ont se sont côtoyés, l'homme a toujours vénéré, admiré l'abeille. Où qu'on soit, il y a des traces archéologiques. Donc la première trace archéologique la plus ancienne date du néolithique. On estime entre 6000 et 8000 ans. C'est une découverte qui s'est faite en 1922 dans des abris rocheux à côté de Valence en Espagne, où l'on voit entre autres iconographies. Un homme encordé allant chercher du miel dans une falaise. Pratique qui a toujours cours maintenant dans certaines régions du Népal ou de l'Inde. Oh, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Ils risquent leur vie en plus, hein. C'est pas du tout, c'est pas du cirque. C'est vivrier. C'est pour leur survie. Donc à Caen, on a très peu de traces parce que l'abeille est un insecte, donc n'a pas de structure squelettique qui permette de conserver quelques traces. On a des traces qui datent de 2400 ans avant notre ère, de poteries dans lesquelles on trouve des traces de cire. Et on ne sait pas si ça servait à l'imperméabilisation ou si c'était une partie du contenu, si c'était associé à du miel, si c'était associé à d'autres nourritures. Voilà, on a cette trace. Les ruches les plus anciennes datent de l'Antiquité. Ce sont des ruches en terre, donc très, très facilement friables, etc. Et donc l'apiculture, c'est l'abeille est mis à part les cercles polaires, l'abeille est partout. Parce qu'il y a eu les Européens ont colonisé l'Amérique du Sud, par exemple. Et là, ça pose encore un problème. Les Aztèques, les Incas, tout le bassin du Yucatan, c'est-à-dire l'Amérique centrale, avait et a une abeille qui était vénérée, qui était l'abeille mélipone, qui est une cousine de la nôtre, qui a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de dard. C'est intéressant quand même. Par contre, mélipone est moins productive qu'Apis mellifica, notre européenne. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Espagnols ou Portugais? Ils ont introduit, bien sûr, l'alcool, la rougeole, la syphilis, et Apis mellifica, ainsi que les chevaux. Enfin, voilà, c'est la porte de notre civilisation. Et elle est en danger, la mélipone est en danger à cause de cette rivalité. Par contre, il y a des sanctuaires, il y a Cuba qui est un sanctuaire de la mélipone, où il y a un conservatoire, mais ailleurs dans le Yucatan aussi. Je fais comme toi, je ne sais plus où j'en suis.
Ah oui, de quand?
Alors, je vais essayer de faire vite. Donc, entre l'Antiquité et la fin du Moyen-Âge, il ne se passe rien, aucune évolution dans les pratiques de l'apiculture. Quand on veut prendre le miel, on est extrêmement intrusif, c'est-à-dire on détruit la colonie, on l'asphyxie, en la mettant dans l'eau, on la noie, quoi. Moi, je l'ai pratiqué avec un vieux paysan, il y a longtemps. Il avait des ruches. Pas des ruches troncs, mais des ruches, c'était quatre planches. Donc, on prenait la ruche, on l'enfumait, bien sûr. On prenait la ruche, on la couchait sur une table. Et il avait une espèce de long outil, comme ça, un couteau, en fait, au bout d'un embanche. Et il allait chercher des morceaux de rayon. Mais évidemment, il prenait aussi du couvain. Enfin, c'était... Et donc, la grande innovation dans l'apiculture, dans les modes de production... et donc dans les rapports à l'abeille, c'est l'invention de la ruche à cadre. La ruche, c'est une boîte, vous voyez tous. Ce sont les cadres mobiles. Avant, les cadres n'étaient pas mobiles. Et c'est ça qui fait le grand développement. La ruche à cadre mobile, l'extracteur qui va avec, un extracteur pour le miel. Imaginez-vous une essoreuse de machine à laver. Voilà, on fait tourner très vite les cadres des operculés pour chasser, éjecter le miel sur les parois. Et autre, alors il y a ça, il y a eu l'invention de l'enfumoir, ça n'est pas rien. Voilà, mais depuis la moitié du 19e siècle, on a, sinon, l'invention du polypropylène avec lequel on peut faire aussi des ruches. Il n'y a rien de nouveau. Si. Dans l'apport scientifique, il y a quelqu'un qui est extrêmement important, au même titre que Galilée, l'un travaillant sur l'infiniment grand, l'autre sur l'infiniment. C'est soit Merdan, Yann, soit Merdan, qui était médecin et qui a fait les premiers travaux de dissection de l'abeille, de description des organes et de dessin de ces travaux. Ce qui a contribué, bien sûr, au moins dans le monde scientifique, à faire évoluer les choses.
D'accord. Voilà. Ok, donc pour un peu d'histoire. Et...
Alors, je pense qu'on va passer à la question suivante avec ça. Quand on fait l'historique, j'ai commencé à dire que dans les années 60, c'était peut-être pas mirifique, mais les modes de culture n'étaient pas les mêmes. On introduit massivement les engrais issus du pétrole, produits à partir du pétrole, dans les années 50-60, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Nous, apiculteurs, on connaît deux bombes atomiques quasiment simultanément. C'est Varroa jacobsoni ou Varroa destructor qui est un prédateur endémique de l'abeille serrana, qui est l'abeille asiatique, mais qui vit en osmose avec lui. S'il devient trop chiant, clairement, s'il exerce une pression trop forte, l'abeille s'en débarrasse. Elle a une capacité de nettoyage, ce qui fait que ça se passe bien. Sauf que Varroa est probablement arrivé en avion, et c'est par les pays de l'Est. Et il est passé en Allemagne, et puis bien sûr en France, et maintenant il a une occupation mondiale. Il faut se souvenir, enfin moi c'est un souvenir que j'ai, les Allemands quand Varroa est arrivé, ils ne savaient pas quoi faire. Ils faisaient brûler les ruches et les colonies. Ils détruisaient par le feu. Et ensuite, presque concomitamment, on a les néonicotinoïdes. Donc, qui sont des perturbateurs du système nerveux. Ça ne tue pas l'insecte, mais il ne rentre pas. Il perd ses repères et il finit par s'épuiser et mourir. Donc, on vit avec ça. Et la troisième couche, là, on l'a depuis Vespa velutina nigritorax, c'est depuis 2013, c'est ça ? 2004 en France. Donc, il est arrivé par Toulouse dans des poteries, on pense. Et donc, comme tout Vespa, c'est-à-dire guêpes, les frelons, notre crabeau, l'abeille travaille avec de la cire, n'est-ce pas, construit des édifices avec de la cire. Les Vespa, c'est-à-dire guêpes, frelons, construisent avec de la pâte à papier, du bois, qu'ils déchiquettent. Ils ont des mandibules qui leur permettent de malaxer, déchiqueter le bois et le malaxer pour en faire. D'ailleurs, c'est des œuvres d'art... C'est magnifique. Donc, il leur faut de l'eau. C'est pour ça qu'à Toulouse, avec le canal du Midi, la Garonne, tout ça, ils ont prospéré. Mais après, ils ont pris l'autoroute. Très vite, on a trouvé un à Nice. On ne comprenait pas pourquoi. Sauf qu'il est allé à Nice en camion, quoi, par l'autoroute. Voilà. Et depuis, il est partout... Voilà, okay. Un constat un peu sombre, j'en sais rien, mais pour ceux qui commencent l'apiculture ces années 6, c'est un peu difficile.
Bon. Ok. Je passe à la question suivante.
Il faut bien, oui.
Donc, on voulait savoir dans votre pratique de l'apiculture, c'est quoi une journée type ? Enfin, comment ça se passe, une journée d'apiculteur, quand tout va bien, au moins ?
Oui. Non, effectivement, on peut décrire l'activité apicole comme étant une activité très marquée par la saisonnalité, à savoir qu'on travaille, on vient simplement calquer notre modus operandi sur celui des abeilles. Il n'est absolument pas question d'aller ouvrir une ruche en hiver. Imaginez qu'on décoiffe une maison pendant 10 minutes. Ça va être une catastrophe. Il va falloir, et là c'est le cas dans une ruche, si on préconise de ne pas ouvrir une ruche et surtout d'intervenir le plus rapidement possible, on n'intervient pas sous une température de 15 degrés. Oui, parce qu'après, eh ben, il faut qu'elle remonte la température, mais s'il y a du couvain, si on abaisse la température brusquement, on fait des abeilles débiles. Ah ouais. Non, c'est un retentissement sur la formation des larves, etc. Et les nymphes sont plus abritées. Mais après, il faut consommer du miel pour remonter la température, pour assurer la survie de la famille, de la colonie. Donc, on n'ouvre pas en dessous de 15. Donc, on travaille, ben là, c'est bon, c'est parti. Là, il nous manque l'eau, évidemment. On va pleurer dans un mois. Mais tout est en fleurs, là, actuellement. Et ensuite, notre travail, c'est de conduire les abeilles, les colonies. On les fait prospérer en les nourrissant de façon circonstancée, à bon escient, voilà. Sinon, ben, on retrouve le miel, les sucres de nourrissement dans le miel comme polluant. On va en parler peut-être tout à l'heure.
Oui,
des bonnes pratiques en apiculture. Oui. Mais si on stimule la ponte de la reine, parce que, voilà, rapidement, schématiquement, comment ça se... On a des abeilles d'intérieur. D'abord, on a trois, ce qu'on appelle des castes. La reine, la femelle possédant tous ses organes sexuels développés, et c'est elle qui pond. Ensuite, on a des femelles, les ouvrières, qui ont des organes sexuels atrophiés, et on a les mâles. Dans les femelles qui constituent la cohorte du groupe, on a les abeilles d'intérieur parce que le développement de l'abeille à partir de la naissance se fait selon des... Il y a des fonctions organiques, par exemple, on les cirière à un certain âge de la vie. Ensuite, les cellules produisant la cire régressent, mais elles passent à une autre tâche. Et elle va passer d'abeille intérieure, elle va commencer, elle va être nourrice, elle va s'occuper du cadre où elle est née. Elle va travailler et puis s'en éloigner de plus en plus jusqu'au moment où elle commence à sortir. Elle fait ses vols de repérage. C'est l'interface entre l'abeille d'intérieur et l'abeille d'extérieur. Et là, elle devient gardienne. C'est-à-dire qu'elle va apprendre, avant de devenir butineuse, elle va apprendre par des... Elle va faire des rôles, des tours circulaires, des vols circulaires de plus en plus loin, pour reconnaître l'environnement, parce qu'elle mémorise en 3D. Et elle va aussi circuler. Les abeilles ont des couloirs aériens, comme nous, pour tenir compte des courants d'air, pour tenir compte des obstacles. Elles vont éviter les arbres, etc. Et le long de ces couloirs aériens, elles font des va-et-vient, elles sont gardiennes, et elles sont plus on se rapproche de la ruche, et plus elles sont nombreuses. Et ensuite, elles passent butineuses la dernière semaine de leur vie. Statistiquement, une abeille ouvrière vivait 160 jours, maintenant ça n'est plus le cas, 140 plutôt en hiver. Et l'abeille d'été vit 35 jours statistiquement, dont la dernière semaine de sa vie est consacrée au butinage et à la pollinisation, aux travaux d'extérieur. Travaux au risque parce que bon, les oiseaux, parce que les produits chimiques, peu importe, tous les agents pathogènes ou dangereux. Voilà. Et pendant la dernière semaine, c'est toujours des chiffres un peu théoriques ou statistiques, elle va recueillir l'équivalent en hectares. Elle va rapporter à la ruche de quoi faire 7 grammes de miel. Quand on sait qu'il y a 20% de glucides, de sucres différents dans le nectar, le reste sont des sels minéraux, c'est de l'eau, etc. Il y a tout un processus chimique, organique, d'élaboration. Voilà. On passe à l'autre question.
Ah non, ok. Bah, c'était notre question, c'était les bonnes et les mauvaises pratiques d'apiculture.
Oui.
Voilà, qu'est-ce qu'un bon éleveur de miel
ou
on
le sait tous, hein. Ce que c'est. Grosso modo, 1 800 000 tonnes par an, hein, au monde, la production. La Chine, 520 000 tonnes. Le deuxième producteur, c'est l'Europe, croissant 20, je crois. Et juste derrière, on a la Turquie, avec un peu plus de 100 000 tonnes. Mais ce sont toujours des données théoriques, évidemment, c'est tellement fluctuant. Et la France a considérablement régressé dans sa production. On est passé, on est au milieu en Europe, on les donnait entre 10 et 15 000 tonnes. Mais récemment, il y a une année, on l'a fait 8 000 tonnes.
Mais c'est bonne ou mauvaise pratique, alors ?
Eh bien, j'en arrivais à ça parce que 35%, la consommation mondiale augmente. Et en Europe, on est les premiers consommateurs. Mais la production décroît. Donc il y a une distorsion. C'est pour ça qu'on a de plus en plus... Alors, ce n'est pas une facétie, c'est le syndicat mondial des... C'est un organisme professionnel. Son président était venu faire une conférence en France. Il est agronome universitaire et il nous avait scotché, ben un peu comme toi tu l'as fait là, avec tes propos. 35% des miels sont édulcorés ou falsifiés. D'accord. Ouais, voilà. Après, on peut parler des bonnes pratiques. Nous, le circuit court et amateur, on a des bonnes pratiques. Et en plus, on est des éducateurs. On fait de l'éducation populaire. On ne va pas dire à nos adhérents, et puis nous, d'ailleurs, on ne le fait pas, balancer du sucre, des sirops pour faire du vrai faux miel, quoi. Voilà. Mais on sait faire du miel à peu près avec tout, avec du riz, avec de la canne à sucre, avec quoi, ouais, du riz. Du riz, c'est les Chinois, mais... Non, mais... On les assomme, les Chinois. Si on ne commandait pas aux Chinois, ils ne fabriqueraient pas. Ils sont capables de faire des bagnoles, ils savent tout faire, des fusées, machin. On leur donne un cahier des charges, ils y répondent. En plus, il n'y a pas du tout la même notion. Moi, je vois en Afrique du Nord, on consomme, on dit c'est du miel. Le miel pur est très rare. C'est souvent un miel utilisé en cuisine. Il y a des adjonctions de sucre. Voilà. Et dans ces pays émergents, c'est évident que le miel pur, c'est une autre... On est sur une autre planète, quoi. D'accord. Alors, les bonnes pratiques, elles sont au rucher, d'abord. Les médicaments ou les produits qu'on utilise. Les aliments qu'on donne aux abeilles, quand, comment, combien... ensuite, les bonnes pratiques, elles se font au... Alors, il faut savoir que l'activité d'apiculteur est une activité régie par le codex alimentaire. Donc, il y a une directive au niveau de l'Europe, une directive miel, qui est traduite en France dans le droit français. La directive miel, elle stipule ceci. Le miel est un produit naturel élaboré par les abeilles, abouti, parfait, auquel on n'enlève rien, auquel on ne rajoute rien. D'accord ? Les USA, par exemple, aux USA, ont fait... C'est quand même un gros producteur. Ils ont reculé, mais ça reste. On donne des antibiotiques a priori. Les antibiotiques, en France, je crois, sont interdits depuis une trentaine d'années, hein, c'est ça ? Si on veut falsifier, moi, je les connais, il y a des... c'est ce que j'allais dire. Pour parler des bonnes pratiques, moi, j'en connais, c'est un antibiotique qui est donné dans les... D'ailleurs, ça pose la question de la qualité des œufs industriels, qui est donné dans les basses-cours, les poulaillers industriels, on file un antibio. On peut le donner aux abeilles. On peut truander, quoi, hein, clairement. Voilà, ça rentre dans les bonnes ou mauvaises pratiques. Il y a toujours des déviants. Hein, s'il y a 35% de miel édulcoré mondialement, c'est qu'il y a des déviances. Après, il y a les bonnes pratiques au labo. Voilà, on prépare un produit destiné à l'alimentation humaine. il faut qu'on agisse dans des conditions sanitaires raisonnables. Puis après, il y a la vente, le conditionnement, etc. Ou encore, parce qu'une partie des miels falsifiés, ça n'est pas des adjonctions de sucre. Ça peut être, j'achète en Espagne un miel lambda. Il n'y a pas de contrôle de toute façon. Hein. Je rentre en France et je le vends comme miel fait. Après, il y a les analyses polliniques qui
c'était un peu notre question d'après. C'est comment on s'assure que quand on achète un miel, on achète ce qu'il y a sur l'étiquette. Comment on sait que ce n'est pas un miel qui va être falsifié? Est-ce qu'on a un moyen, nous, en tant que consommateurs,
de... prêche pas pour ma paroisse, n'est-ce pas? Enfin, pas pour moi. Du miel, je pourrais en vendre 10 fois plus si je voulais. Se méfier des prix bas de gamme et des produits de supermarché. Voilà, c'est clair. Il faut acheter en circuit court. On est même beaucoup. Vu la qualité du miel, on n'est même pas au prix du miel industriel. Moi, je vais vous citer un exemple. Bon, il y a la guerre en Ukraine, malheureusement. Les grossistes, c'est-à-dire les gros acheteurs, hein, quand on voit sur l'étiquette, et c'est récent, miel UE et non UE. Hein. Bon, il a, apparemment, le cadre juridique devrait s'améliorer, mais les grossistes, les industriels achetaient le miel. Il arrivait en France, le miel ukrainien, à 1,50 €. Donc, c'est les miels que vous retrouvez en supermarché à 6 €, 6,50 €, sauf qu'ils font 3 fois la bascule. Et ce sont des miels de colza, de tournesol, puisque ce sont des grands producteurs comme les Russes de céréales. Vous connaissez la zone de Saint-Exupéry, hein, pas la peine d'aller dans la Beauce. Je crois qu'il y a 30 000 hectares de... Si on fait la totalité, 30 000 hectares de maïs d'un seul tenant. Les seuls reliefs, c'est les silos. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc, imaginons bien, et on sait comment le maïs est traité dans la zone de Saint-Ex. Imaginez le colza et le tournesol qui ont des ravageurs. Forcément, on travaille avec des avions. On n'a pas l'avion, vu que ce sont des surfaces colossales. Voilà, c'est ça la réalité des échanges commerciaux.
Ok, donc pas le miel à 6,50 € du supermarché.
Je dis méfions-nous. Alors, un autre exemple, parce que ça, c'est du concret. Je fais de la lavande, je descends à Diolfi, entre Montélimar et Diolfi, puis Diolfi, j'ai 2 stations. Une année, je fais une super belle récolte, je suis surpris, moi, c'était bien, j'étais content. Mais je ne savais pas quoi faire du miel. J'ai un fournisseur à Saint-Étienne qui est le centre d'apiculture, avec qui je bosse, qui nous fournit la cire, etc., tout le matériel. Je lui ai dit, écoute, Pascal, j'ai environ 300 kilos de miel à vendre, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il me dit, apporte-moi un échantillon. Je monte un échantillon. Et il me dit, ben, je te le prends, il est super ton miel. J'ai un client, il en veut 1 200 €. C'est du petit négoce, hein, c'est du négoce régional. Donc, moi, je donne mes 300 kilos. Il reste 9 et 3, 12, 900 kilos à fournir. Si on est 2, 3, 4, 5, si on a un qui a des pratiques totalement déconnantes, même sans le faire exprès, on ne sait jamais. Et bien, tout l'eau est frelatée, puisqu'il remélange derrière. Et c'est du tout petit négoce. C'est du négoce de proximité. Voilà.
Ça marche. Après, on en a déjà un peu parlé, mais les difficultés rencontrées actuellement en apiculture, donc on peut faire un bref résumé, parce que je pense qu'on a déjà un petit peu fait, mais voilà, aujourd'hui, là, sur le rucher, c'est quoi qui est le plus délétère, on va dire, ces dernières années?
C'est multicausal.
Rapide, quand même.
Comment? C'est toujours des cocktails. On additionne Varrois.
Varrois, c'est le...
Alors, Varrois, Jacobsoni Varrois Destructor, c'est un acarien qui vient d'Asie, n'est-ce pas, qui vit en symbiose avec l'abeille, enfin en symbiose organique. Il a un rostre piqueur, il fore les molymphes, la chétine, la cuticule, l'exosquelette, le squelette extérieur. Donc, il fait un forage et il siphonne les molymphes, qui est le sang des insectes. Il siphonne tous les nutriments. Donc, et il se laisse enfermer sur l'élevage, le couvain, sur les larves. Donc, ce qui fait naître des abeilles atrophiées, enfin déformées, machin. Mais, qui plus est, il a un développement qui est calqué sur celui qui est exactement le même que celui de l'abeille, de notre abeille. Et forant l'exosquelette, il injecte en même temps un produit chimique, une molécule, qui va l'exosquelette se régénère très difficilement ou pas. Et en plus, lui, il empêche le trou de se refermer. Donc, sympa. Les abeilles qui vivent comme nous, d'ailleurs, hein, on est tous porteurs un jour ou l'autre de staphylocoque doré. Mais comme notre peau est une armure étanche, ça n'a aucune incidence. Si par contre on se coupe, si on a du staphylo, il va se développer. Et les abeilles qui vivent depuis... alors l'abeille a 100 millions d'années. Le chaînon manquant qu'on l'a trouvé en 2006 en Birmanie.
Ouais, 120, entre 120
et 140. Ouais, mais c'est... Ouais. C'est pas les auteurs ne donnent pas tout à fait les mêmes.
Puis c'est pas les mêmes abeilles, c'est les ancêtres. Quoi.
Oui, tout à fait. Mais celles qui on a des restes de fossilisés dans l'ambre, 70 millions d'années, elle a évolué.
Là, elle ressemble
oui,
déjà beaucoup.
Oui, elle a déjà tous ses outils, elle est parfaite. Excusez-nous. Donc, elle vit depuis des millions d'années avec des agents pathogènes sur elle. Microbes, bactéries, virus, mais qui ne pénètrent pas l'organisme. Sauf que si Varrois fait un trou, c'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Donc voilà, on l'a à Varrois, oui.
D'accord, donc c'est un des plus gros...
C'est notre... il est irréductible, on traite, on a des molécules... qui, même en agriculture bio, on utilise de l'acide formique, on utilise d'autres acides qui sont extrêmement invasifs. Si on utilise de l'acide, on attaque la chitine de l'exosquelette des abeilles. Bon, une abeille qui vit 35 jours en été, ça a peu d'incidence sur le déroulement de sa vie. Mais la reine, elle ne sort pas de la ruche, elle. Elle ne sort pas, donc elle est pleinement impactée. Avant, une reine vivait 6 ans, par exemple, 5, 6 ans, 4 ans, 5, 6 ans. Une reine a une spermathèque de 5 millions qui contient 5 millions de spermatozoïdes. Elle peut pondre 1500 œufs par jour, mais pas toute l'année. C'est une espèce de record. Si, par exemple, la reine est défaillante, on lui casse une patte, elle ne pond plus. Donc, elle va être remplacée. C'est un problème de survie. Et donc, si on utilise ces fameux acides, on va créer ce qu'on appelle une acidose, c'est-à-dire une déstructuration de l'enveloppe de la reine. Et donc, elle ne sera plus opérationnelle. Et elle peut mourir en hiver. Si elle meurt en hiver, c'est une catastrophe. On perd la colonie.
D'accord.
Voilà. Et alors, bien, Varrois, ben, on vit avec, malheureusement. Jusqu'à quand ? Et puis, il y a le frelon qui arrive. Il y a d'autres... on nous annonce Vespa mandarina qui mesure 5 cm de long, qui est un prédateur de Vespa velutina, qui est un prédateur de l'abeille. Mais pas que. Hein. Tout à l'heure, c'est très bien. On se préoccupe d'Apis mellifica parce qu'elle a accompagné l'homme. Elle est visible. Elle est dans les rituels, elle est dans les mythes, elle sert en permanence de référence. La ville de Rive-de-Gier, par exemple, qui est une ville ouvrière, laborieuse, a sur son blason des abeilles. Givors, de la même façon. Mais il y a des cinquantaines de villes en France qui ont le Creusot à des abeilles. Donc c'est une référence perpétuelle. Mais toutes ces abeilles qu'on ne voit pas et qui... Alors, ça, c'est Vessière de l'INRA.
J'ai bossé dans son labo.
Ah, c'est vrai ? Chouette. Excusez-nous. L'INRA a fait une enquête à 30 ans d'équerre, la même. Les conclusions sont identiques. Quand l'abeille rapporte 1 euro à l'apiculteur, à son professionnel, à son propriétaire, tant si bien que ce n'est pas une abeille domestique, donc elle fait ce qu'elle veut, mais enfin. Elle rapporte 20 euros à la collectivité nationale parce qu'elle pollinise le chiffre d'affaires estimé pour la pollinisation dans le monde, c'est 155 milliards d'euros.
Alors là, justement, c'est le chiffre de Bernard Vessière et la FAO est repassée dessus. On est à 450 milliards maintenant.
Ah oui ?
Ouais. C'est plus les 153 milliards de l'équipe Vessière ont été revus. On est entre 450 et 520 milliards par an.
Voilà. Donc c'est incontournable. Et alors, dont on ne parle pas, c'est parce que c'est tout un... C'est tout un arc. Imaginez pour se ventiler là.
Un éventail.
C'est bien.
Ouais, oui.
Mais parce qu'on imagine, on a des pensées extrêmement simplistes. Mais l'éventail de ce dont on parle, il y a 6 à 9 abeilles qui produisent du miel. Et puis, on a tout l'arc de celles qui vivent, l'abeille sociale qui vit en colonie et qui y a recouvrement sur plusieurs générations jusqu'à la solitaire. Mais la solitaire, elle vit en symbiose, par exemple, avec une plante. Si l'abeille, ou l'inverse, si la plante disparaît, l'abeille disparaît. Si l'abeille, cette fameuse petite qu'on ne voit jamais, si elle disparaît, la plante disparaît. Parce qu'elles sont en osmose complète. Le développement de cette petite abeille solitaire va arriver concomitamment avec la floraison. Mais on a plein comme ça. Hein. Il y a une gradation de la solitaire, la pure solitaire, à l'abeille sociale pour laquelle on est en partie ici ce soir.
Ouais. Ouais, alors je vais poser une dernière question, si ça vous va. C'est la même qu'on a posée tout à l'heure. Donc, l'action concrète en faveur de la biodiversité que vous conseilleriez à 1 000 euros et qui favoriserait.
Alors, je vais faire comme Hugues, je vais sortir mon document. adhérer au Rucher École, pas forcément le nôtre. C'est une école où on échange. C'est très transversal en fait, c'est très intéressant. On a tous des pratiques, il y a des médecins, je ne sais pas, et c'est vrai qu'on, c'est stimulant.
D'accord. Tout le monde peut avoir son rucher.
Non, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Non, mais quant à toute initiative personnelle est bien, mais Hugues a dit l'essentiel, tant qu'il n'y aura pas, et c'est valable pour Vespa Vélutinant, on va venir vous solliciter, Madame la maire. Si. Non, mais après, il a parlé aussi des finances publiques. Tout se tient. Non, mais on ne va pas. Bien sûr, moi je suis citoyen, je paye des impôts, je suis un acteur bénévole, mais on est tous dans le même train. Hein. Donc, toute action individuelle est bonne à prendre. Nous, on éduque, mais parce qu'on a aussi des botanistes dans notre rucher école. Un exemple. C'est pour illustrer pourquoi, s'il n'y a pas une politique nationale, on ne s'en sort. Enfin, et au-delà, on prend un hectare. Un hectare, c'est 100 par 100, n'est-ce pas ? Un hectare d'acacia. Bon, c'est un peu l'arbre symbole pour nous ici dans la région. Les données, c'est 400 kilos de miel pour un hectare d'acacia. Vrai ou faux, je ne sais pas, c'est des trucs qu'on lit dans les ouvrages. Comment ? Parce que quand on dit un hectare d'acacia, nous, on nous a éduqués à penser en plants. On voit une couche. D'accord ? Sauf qu'un acacia adulte, il fait 25 mètres de hauteur. Si on fait des strates comme ça, on en fait 25, ça ne va plus faire un hectare, ça fait 25 hectares. Puisque le système floral, il est tout au long, ou plus ou moins, au long de la structure arbustive. C'est pour ça, il faut tenir les échelles. L'échelle, on plante un cerisier, je ne sais pas, on plante une haie de noisetier, c'est super bien. On va faire revenir des oiseaux, voilà. Mais il n'y aura qu'une politique menée. Il faut que l'individuel devienne du collectif. Voilà. Et il faut légiférer.
Après, la question, c'était pour le 1000 euros. Hein.
Oui, mais justement, non. Il n'y a pas. Mairie, alors, c'est on est dans un grand contraste à Mairie.
Oui, oui, non.
Oui, je vais me taire. Il y a
Ça... Oui, on va passer.
Mairie, c'est une zone, on en parlait tout à l'heure, de fruitiers et de viticulture. Mais il y a en même temps des friches. Vous avez tout le coteau rhodanien. On n'est pas dans une forêt primaire, évidemment, mais on a un biotope qui est super intéressant. Moi, j'ai un copain qui est entomologiste et il a trouvé des papillons qu'on ne trouvait nulle part ailleurs sur les bords du Rhône.
Bon. Très bien, bon, on va finir là-dessus.
On ne va pas désespérer. Hein.
Non, on n'est pas là pour ça. Très bien, merci beaucoup.